Arnaud Boutéon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît déjà pour les émissions Sport et Foi. Vous nous proposez une nouvelle série d'émissions sur la paternité et sur les hommes, des pères pour aimer. Est-ce que vous pouvez, avant de traiter de notre sujet d'aujourd'hui, vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Absolument, je suis père de 5 enfants, j'ai 48 ans et j'aime le Seigneur, j'aime le sport, j'aime la vie, j'aime l'engagement. Et je suis engagé dans différents mouvements, en particulier je m'occupe du développement de confréries d'hommes qui s'appellent les Chevaliers de Colomb, qui sont un peu présents partout dans le monde. C'est 2 millions d'hommes qui servent autour des paroisses, autour des lieux d'église, dans un esprit populaire et missionnaire. Et évidemment, pendant cette année Saint-Joseph, ben, la question de la masculinité, la question du service, la question de la paternité me touche particulièrement, où on en parlera au-delà de la paternité biologique. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit et dans cet élan que je suis heureux de proposer à Radio Maria, avec plein d'amis hein, autour de moi, cette série de 10 émissions pour cette année. Voilà. Chers amis, chers auditeurs de Radio Maria, je suis heureux de vous retrouver désormais le troisième samedi de chaque mois pour cette nouvelle série d'émissions consacrée à la paternité. Ce sera une émission de pères, d'hommes, pour les pères, mais bien au-delà aussi pour toutes les familles, pour les épouses. On sait le rôle pivot que les épouses apportent aux hommes, et les hommes sont tournés vers ces épouses. Cette émission, c'est tout simplement pour essayer de davantage nous affermir, nous découvrir dans notre condition d'homme, de père, et puis surtout nous déployer. Pourquoi ? Non pas pour célébrer nos égos, mais pour servir notre prochain, les autres. Et aujourd'hui, notre prochain, c'est notre épouse, celle qui est le plus proche de nous. Ce parcours que nous suivrons ensemble, ce n'est pas un parcours intellectuel, théorique ou théologique, mais je souhaiterais tout simplement partager avec vous des pistes de réflexion à la lumière de la foi catholique, à la lumière de la tradition, du magistère, et puis de penseurs, même d'artistes du quotidien, ces réflexions qui vont nous conduire à des actions concrètes, des actions dans nos vies d'hommes, dans nos vies de pères à poser, pour poser des gestes concrets, vraiment dans la réalité du quotidien, et puis contribuer chacun à notre mesure à sanctifier le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous survivons. On dit souvent aujourd'hui que la masculinité est le naufragé de la modernité. L'enjeu, c'est d'essayer de se remettre debout, de nous affermir et puis voilà, de combattre. Parce que le combat, vous savez que j'aime beaucoup le sport, bah c'est une occasion de révéler de quel bois on se chauffe. Et pour nous chrétiens, bah c'est le bois de la croix, et le bois de la croix, il annonce la résurrection. Nous avons identifié pour cette année, pour ce parcours, 10 thèmes que nous pourrons parcourir ensemble, avec à chaque fois un petit témoin, un invité qui viendra apporter sa petite pierre à l'édifice, partager des pépites et partager des bonnes pratiques en fonction de sa vie, en fonction de son expérience, de ses rencontres, etc. Donc je souhaiterais vraiment que cette émission soit tonique et vivante. Vous savez, le père de famille, celui que Peggy appelait l'aventurier des temps modernes, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai. Peggy disait d'ailleurs « Je travaille pour les temps à venir ». C'est qu'il savait lui-même qu'il n'était pas de son temps. Il disait lui-même, Finkielkraut le disait, « Je suis un mécontemporain ». Et il avait la prescience un peu de ce qui allait arriver. Et près de un peu plus de 100 ans après, finalement, on réalise à quel point le père est réellement un aventurier des temps modernes. Un aventurier, bien, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui avance pas à pas à la bougie. Et puis nous, la chance que nous, en tant que chrétiens, c'est que nous sommes aussi éclairés par le phare de la tradition et que nous ne sommes pas seuls. Même si parfois, dans nos exercices de père, on se sent un peu paumé. Et le père, ben, il est dans ce monde en relation avec de nombreuses personnes, de nombreuses réalités, avec beaucoup de parties prenantes. C'est une expression qu'on emploie aujourd'hui beaucoup dans le monde de l'entreprise. Des parties prenantes qui vont entourer ce père et qui peuvent le faire grandir, mais qui peuvent aussi l'oppresser, qui peuvent le tétaniser. Et bien, cette année, à travers ces 10 parcours, nous allons essayer de voir comment cet aventurier, avec la grâce de Dieu, avec la grâce du Seigneur, peut diffuser la sainteté autour de lui, avec une tension que nous pouvons tous éprouver, et en particulier peut-être les hommes, avec cette énergie vitale qui les caractérise, entre cette tension entre la séduction, entre la prédation et puis l'oubli de soi, la communion et le service de l'autre. Un jour, Benoît XVI avait évoqué ça lors d'une rencontre avec des cardinaux. Il disait qu'on était vraiment interpellé dans ce monde moderne entre cette tension de la célébration de l'amour de soi dans l'oubli de Dieu ou la célébration de Dieu dans l'oubli de soi. Et je crois que c'est quelque chose qui caractérise très largement la paternité, qu'elle soit biologique ou non. Mais un père est toujours là pour s'oublier et pour servir. C'est ce qu'on verra. Peut-être que la maternité, qu'elle soit biologique ou non, conduit à quelque chose de plus profond, de plus ouvert, de plus liant avec les autres, qui peut être aussi lié à cet accueil de la vie, et puis une relation qui sera peut-être beaucoup plus sensible et délicate, en tout cas moins sur des rapports de force visibles. Voilà, donc dans ces 10 rendez-vous, nous allons ensemble évoquer aussi sur cette route escarpée de la sainteté. L'enjeu, alors c'est notre premier rendez-vous de la vie conjugale et du service de l'épouse. C'est ce premier rendez-vous. Je vais commencer un peu à vous déflorer les 9 prochains pour vous donner l'eau à la bouche. Nous évoquerons ensuite le mois prochain la question du combat spirituel et de notre choix pour le Christ, donc notre intimité avec le Seigneur. Ensuite, nous nous mettrons sur le chemin de quelques belles figures paternelles de sainteté. Des gars bien de chez nous, des gars bien incarnés, avec des épouses, avec des enfants, avec un boulot et puis un engagement dans la cité. Ça ne sera pas des figures sacerdotales, ce ne sera pas des figures monastiques, mais ça sera des figures vraiment d'hommes, qu'ils soient vénérables, saints ou non, qui peuvent vraiment nous inspirer dans nos vies d'hommes. Ensuite, le quatrième rendez-vous sera le service de l'Église notre mère, au-delà de l'Église domestique familiale, mais de vraiment de l'Église aussi institution. Et de se dire aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une période un peu compliquée, comment je vais aider, servir l'Église et l'aimer de tout mon cœur. On sait que les temps à venir vont être compliqués. Le 5 octobre, nous avons ce rapport nécessaire et douloureux sur les abus sexuels. Ça exigera de notre part un surcroît d'amour et puis un accueil. Vraiment, j'allais dire, dans la confiance de ce nécessaire temps de vérité et de clarification sur les errances de l'Église institution et de ses pasteurs. Et je crois que c'est nécessaire. Le pape Benoît XVI évoquait une barque qui prend l'eau pour refonder un nouveau temps missionnaire. Il est important de purger et de nettoyer ce qui est sale. Nous parlerons ensuite, dans une prochaine émission, du service des enfants. Et j'ai souhaité faire une distinction avec la relation du père avec ses fils. Donc on est dans une relation masculine, homme-homme. Et puis ensuite, dans une deuxième émission, il y aura vraiment le service des filles. Et ce n'est pas la même chose. Je crois que les pères, dans leur comportement de tous les jours, dans l'ajustement de leur relation avec leurs garçons et leurs filles, ils ont des messages un peu différenciés à apporter. Et c'est ça qu'on verra ensemble. On reviendra aussi sur quelques ouvrages un peu de référence qui ont pu être consacrés à ces sujets. Ensuite, nous évoquerons le sujet du bien commun, de l'engagement dans la cité, le sujet du patriotisme chrétien, avec ce rôle des pères dans leur devoir de citoyen, dans un contexte aujourd'hui bien français que beaucoup de pays ne comprennent pas, que celui de la laïcité. En bref, comment les prêtres peuvent être des témoins dans l'espace public. Puis, à la lumière de Saint Joseph artisan, nous parlerons du devoir d'État et du travail. Nous parlerons de cette sanctification du Père dans le travail, comment faire de son mieux, comment faire finalement du moindre geste un peu professionnel un chef-d'œuvre. Un ami me disait, j'essaye de faire de chaque email un chef-d'œuvre avec ce que Simone Veil appelait le sens de l'attention. Et puis, le service de ses clients, le service de ses patients et la portée évangélique de tous ces gestes, de tout ce temps passé à transpirer et puis à bosser dans notre vie de tous les jours. Au printemps, nous parlerons d'un sujet aussi qui m'est très cher, c'est celui des grandes amitiés, tant magnifiées par Raissa Maritain, comment contribuer à la civilisation de l'amour en additionnant tous nos talents, à quelle fin? L'amitié avec nos prêtres, nos complices dans la foi, l'amitié avec... Avec ses camarades, que ça peut être des camarades de boulot, camarades historique, mais voir comment est-ce que je sanctifie ces amitiés et comment ça vient nourrir mon cœur de père. Et puis pour clore ce cycle évidemment n'est pas exhaustif, on pourra dire oui, vous oubliez telle partie prenante, etc. Mais j'évoquerai le service des pauvres. Saint Vincent de Paul disait qu'ils sont nos maîtres. Et voilà, voilà comment, comment servir le plus pauvre, le plus vulnérable. Et puis en servant évidemment le pauvre, c'est le Christ que nous servons. Voilà, chers amis, donc de façon un peu tonique, cet aperçu rapide des 10 étapes de notre parcours pour cette année à venir. Nous pouvons dès à présent confier à l'intercession de Saint Joseph, qui est le modèle de toute paternité et donc d'obéissance et donc de liberté, cette année sous son regard avec ces 10 étapes qui à chaque fois vous seront reprécisées. J'ai souhaité faire ce petit focus aujourd'hui sur la question de la vie conjugale et de la sainteté offerte à l'autre, parce que les couples aujourd'hui sont vraiment fracassés, on le voit autour de nous, on voit cette exigence de conquérir tous les jours notre épouse, de confier tout cela au Seigneur, et j'aurais voulu rappeler et partager avec vous quelques petits fondamentaux, ça ne sera pas des grands cours de théologie, hein, sur vraiment la signification de ce sacrement de mariage. Moi, je suis tellement triste de voir a posteriori des hommes blessés dans leur sacrement de mariage. Et on sait, vous savez, que souvent, quand l'épouse part, il est très difficile qu'elle revienne. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Le premier message que je voudrais faire passer, c'est à quel point... Pour tous les hommes, c'est une conquête de tous les jours. C'est qu'au moment où vous mettez le pied au sol, le matin, en se confiant à Saint-Joseph, c'est ce que je demande à mes chevaliers de colons, de dire comment je peux conquérir mon épouse davantage, comment je peux davantage la servir et la rendre heureuse. N'oublions jamais que le sacrement de mariage signifie vraiment l'union du Christ et de l'Église. C'est ce que dit le catéchisme, il donne aux époux la grâce de s'aimer de l'amour dont le Christ a aimé l'Église. Et c'est pas un amour de pacotille, c'est pas un amour de superficialité, c'est l'amour dont le Christ a aimé son Église. Et la grâce du sacrement, dit le catéchisme, perfectionne ainsi l'amour humain des époux. Il affermit leur unité indissoluble et les sanctifie sur le chemin de la vie éternelle. J'aime beaucoup cette notion de sanctification réciproque et mutuelle. Se dire que j'ai quelque part la responsabilité, moi en tant qu'époux, de la sainteté de mon épouse. Comment est-ce que je me laisse déranger par elle et je contribue à sa sainteté? Comment est-ce que je suis un escalier, même un ascenseur pour elle, pour monter au ciel? Ou est-ce qu'au contraire, je suis un poids qui la leste et qui l'alourdit? Donc ça suppose, si vous voulez, tout un travail de correction fraternelle, de délicatesse et d'ajustement. Je vais vous proposer une petite pause musicale qui est un magnifique hymne à l'amour, qui reprend les paroles du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, on l'a un peu présenté comme la célébration de l'amour conjugal. Je crois que c'est surtout la célébration de l'union de Dieu et de son peuple. Et c'est comme ça qu'on va l'entendre, et donc plongeons un peu dans ce mystère de cette célébration du Christ et de l'Église, et nous, dans notre relation conjugale, posons-nous la question, est-ce que chaque jour, je vis avec mon épouse de cet amour dont le Christ a aimé l'Église ? Chantons le mystère de l'amour, le sacrement de mariage est vraiment le signe visible d'une réalité invisible, de cette réalité de l'amour de Dieu pour son peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que par le sacrement de mariage, l'Église nous garantit vraiment la présence du Christ au cœur de notre couple. Cette présence du Seigneur, c'est une présence de joie, de paix, de réconciliation. Là où la relation d'amour aussi est une relation évidemment qui est entachée par des inévitables blessures. Le mariage, c'est l'union de deux êtres blessés. Nous sommes tous blessé, fracassé. Et le Christ, il est là où sont les plaies. Il est présent dans cette vie intime du couple, mais aussi dans cette vie publique du couple, dans notre relation aux autres, dans cette relation que nous aurons avec les personnes que nous aurons à servir. Et ce que je trouve assez incroyable dans cette approche aussi missionnaire auquel nous sommes appelés, et j'en parlerai tout à l'heure avec Emmanuel, c'est que cette question de savoir si notre vie à deux dans notre couple est un véritable laboratoire, en quelque sorte, de vie évangélique. Est-ce que les personnes autour de nous voient que notre amour, notre complicité, notre don mutuel est réellement le reflet et donc aussi le témoignage de l'amour du Seigneur pour son peuple, pour son Église et pour tout être humain. Il est là le mystère de l'amour. Et c'est là qu'il y a cette notion de combat, de conquête, tout en sachant qu'il y a un moment où on crie aussi vers le Seigneur en disant « Seigneur, aide-moi, 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 il y a un mystère, aide-moi à l'aimer, à la conquérir, viens remplir ce vide, et puis aide-moi à conduire vers l'union avec toi, celle qui m'est confiée. » Parce que l'enjeu réellement, c'est de nous préparer à notre union avec le Seigneur, et c'est pas la question de notre salut, notre petit salut personnel qui est en jeu, mais c'est cette question du salut du conjoint, et en contribuant à la sainteté de mon épouse, je préparerai son union, sa vision béatifique et son union avec le Seigneur là-haut. La finalité de notre vie, elle est au ciel. Elle n'est pas pour nous regarder dans l'auto-célébration d'une peut-être belle vie familiale ou belle vie conjugale. Il faut toujours être finalisé dans cette réalité qui nous dépasse, qui nous surpasse, cette réalité invisible que le sacrement de l'amour rend visible. Je crois que mon ami Emmanuel va être en ligne. Emmanuel est aussi chevalier. Il a beaucoup plus travaillé sur la question de la conjugalité et du sacrement de mariage que moi. J'aurais voulu qu'il nous partage et qu'il nous dise tout simplement aujourd'hui, dans sa condition d'homme, Emmanuel, comment est-ce que tu vis ce sacrement de mariage, j'allais dire presque jour après jour, presque heure par heure. C'est une conquête, c'est une ascèse, c'est un travail de recommencement. Est-ce que tu peux nous partager déjà quelques petites pépites pour les éditeurs de Radio Maria, et puis peut-être rebondir sur cette question du témoignage missionnaire du couple. Bonjour à toi, Emmanuel.
Bonjour, Arnaud. Quelle joie de pouvoir partager sur un sujet qui finalement nous concerne de très très près, puisqu'il nous concerne humainement parlant et homme parlant. Je voudrais juste reprendre une expression que tu viens d'indiquer, c'est le reflet. En fait, nous sommes effectivement des pâles reflets de cette réalité, du don du Christ à l'humanité. Et ce pâle reflet, il y a grâce de temps en temps pour pouvoir le contempler malgré tout, et de pouvoir... Moi, j'en tremble de temps en temps en observant mon épouse, en vivant à ses côtés, en découvrant les richesses des accueils qu'elle manifeste, des dons qu'elle manifeste. Je suis parfois bouleversé par cette réalité très profonde du mystère qui nous dépasse. Et je lui dis, et parfois nous partageons sur ce sujet-là, malgré nos faiblesses, hein, parce que nous sommes des pauvres pécheurs comme chacun le sait, pécheurs avec des défauts qui sont différents d'un homme à l'autre, et l'épouse a aussi ses propres défauts, et au-delà de ces faiblesses, eh bien, il y a cette capacité, je dirais, à découvrir les pépites qui se trouvent chez son épouse, et qu'on va s'efforcer de pouvoir je dirais mettre en valeur et observer toute la capacité que l'épouse a de nous accueillir et de se donner. Hein, je pense que y a, dans le mariage, il y a une espèce de... Alors le terme est... Tu as parlé de sport, il y a une espèce de compétition, je dirais, dans cette capacité à redécouvrir en permanence le don et l'accueil. Et il y a les enfants qui vont aussi intervenir dans cette réalité, puisque c'est un don, c'est le fruit, hein, c'est un don du ciel qui nous surprend et qui, là encore, marque la différence entre l'un et l'autre. Les enfants ne sont pas, je dirais, exactement ce que nous aurions souhaité. Ils sont bien mieux d'ailleurs, mais voilà, ils marquent des différences. Et notre épouse, au fur et à mesure que les années passent, et 35 ans de mariage maintenant, je suis dans l'admiration et dans la contemplation. Et j'ai un maître dans ce domaine, c'est Saint Joseph. Pour moi, Saint Joseph n'a pas parlé, il n'a rien dit, enfin, aucune de ses paroles n'apparaît dans l'écriture, et qui pourtant a été à même de marquer des décisions très concrètes, et qui a dû regarder Marie avec un amour, je dirais, qui était don total, et qui a pris des risques forts pour pouvoir aimer Marie, pour pouvoir aimer Jésus, et qui les a regardés certainement avec une humanité... avec ses défauts, avec ses faiblesses, en sachant qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire aujourd'hui. Moi, j'ai encore les défauts que j'avais lors de mon mariage, je les ai encore toujours. Hein, et je me bats toujours contre ces mêmes défauts. J'ai une difficulté à imaginer, je dirais, les besoins de mon épouse. Alors, elle me les rappelle, d'ailleurs, et elle me fait progresser là-dessus. Mais les besoins de l'autre, etc., les aspirations de l'autre, voilà, c'est un travail continu. Et c'est un travail continu qu'on s'efforce de partager à d'autres. Et j'ai envie de dire que tu parlais de la mission. Oui, la mission est quelque chose qui nous relance en permanence et qui nous fait découvrir des dimensions nouvelles de l'épouse. Et ça va de façon très concrète. Hein. Ça va dans son corps, dans sa vie corporelle, avec... les souffrances qu'elle peut avoir. Moi, j'ai une épouse qui est passée un certain nombre de fois sur une table d'opération et on ne voit pas, mais elle souffre dans son corps tous les jours. Et ça nécessite, je dirais, une attention particulière que les autres, d'ailleurs, ne voient pas. Il y a un mystère de la relation de l'homme et de la femme, une intimité de l'homme et de la femme qui est quelque chose qui nous est propre et qui est révélateur de l'immensité de celui qui nous dépasse et auquel nous sommes effectivement appelés pour l'éternité. En fait, le mariage est un mariage à trois. C'est un mariage à trois. Et le Christ, en permanence, nous relance dans cette capacité à redécouvrir, je dirais, les merveilles de l'autre. Oui, mon épouse est une merveille. J'ai une fierté de le dire, c'est une merveille. Et je suis émerveillé le matin, je suis émerveillé le soir. Je suis émerveillé dans la journée de voir tout ce qu'elle peut faire, etc. Et cela me relance. Et j'espère être celui qui l'accompagne. Et je suis en tous les cas sûr, accompagné par elle, parce que je sais qu'elle a une attitude, je dirais, à peu près semblable. À peu près, parce qu'à l'instant T, on a nos caractères, nos faiblesses, nos corps, etc., qui parfois, je dirais, nous rappellent à des réalités qui sont... concrète, et on n'est pas simplement des purs esprits. Hein, on a un exemple, quand j'ai faim, j'ai dit quand est-ce qu'on va déjeuner. Bon, alors là, elle se dit, tiens, il faut que je prépare quelque chose. Bon, voilà. Mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité concrète, hein, de la vie quotidienne, et qui pourtant va se traduire à travers un don, une disponibilité, une écoute, une réponse, etc. Un véritable dialogue va s'instaurer. Et ce dialogue, il est entre l'épouse et au service de l'épouse, dans le détail, dans ses aspirations, dans une anticipation. Ça, ça fait vivre, quoi. J'ai envie de communiquer ça à beaucoup, à beaucoup d'autres couples qui, malheureusement, ne goûtent pas cet émerveillement quotidien, je dirais, de tout instant, hein. ouvrons nos yeux à, je dirais, la contemplation de la merveille qu'est l'autre, la merveille de celui qui nous est donné par le Seigneur. Et l'épouse m'a été donnée par le Seigneur. Tous les matins, et je vais vous dire de façon très simple, je l'ai remerciée encore ce matin de ce qu'elle est, de ce qu'elle m'apporte, de ce qu'elle me donne, de ce qu'elle elle me fait progresser. Certes, moi je mets beaucoup de freins. Ma faiblesse fait en sorte que j'ai... Voilà, on sait très bien nos forces, nos faiblesses, mais on a tendance à écarter nos... Pourtant, il y a des faiblesses. Eh bien, elle est là. Elle est là. Et contemplons Joseph qui contemple Marie en permanence et qui suit Marie et qui en même temps la précède. Part en Égypte, hein, qui va quitter son pays, son travail, etc., pour pouvoir permettre la sécurité de son épouse et de son fils. Voilà, ça c'est beau. Ça, c'est... Donc, on peut en parler pendant des heures, parce que toute la vie, du matin jusqu'au soir, si nous ouvrons les yeux, nous sommes à même de pouvoir contempler cette réalité. Cette réalité concrète de l'attente de l'autre, de la capacité de donner ce... Et l'homme doit donner sa vie. Dans le cadre de la préparation au mariage, moi, à plusieurs reprises, j'ai observé des hommes qui étaient déconfits quand on leur disait « Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre épouse ?» Alors, je n'ai pas donné ma vie au sens « ma vie m'a pas été prise », mais je donne petit à petit, malgré tout. Et ça, c'est vraiment une joie, une joie profonde qui anime notre couple, de donner son temps, donner son énergie, donner sa pensée, donner sa capacité à la rendre heureuse, à l'aimer. Et ça, ça concerne des actes concrets, mais c'est aussi la respecter dans son corps, la respecter dans cette réalité. Surtout pas la dominer, mais la recevoir. Voilà, c'est la respecter dans son corps. Ça, c'est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est parfois quelque chose qui a été souvent oublié et qu'il faut redécouvrir en permanence. Voilà quelques
merci Emmanuel. On retrouve vraiment le souffle de l'aventurier et on voit à quel point la vie conjugale est une aventure du quotidien, avec ce rythme imprévisible du quotidien et qui est ce chemin de sainteté. Et je note vraiment l'importance de l'émerveillement du quotidien et puis cette contemplation, une contemplation active, finalement contemple actif devant ce mystère de la femme, de son rythme. Et que nous devons servir. L'épître de saint Paul parlait d'un homme livré pour son épouse, comme le Christ se livre pour son Église. Et c'est vrai que ça passe par le don de nous-mêmes, l'oubli de soi, transformer ces tensions un peu de prédation vers le don de nous dans la communion des corps et des cœurs. C'est une aventure vraiment exaltante. Et on sait que sans le Seigneur, on peut pas aller loin. Je crois que c'est ce qu'on voit aussi dans nos petites expériences de père du quotidien, à travers tous ces événements anodins qui souvent déprogramment un rythme un peu bourgeois et confortable qu'on voudrait s'imposer. C'est d'être ductile et puis toujours mu par cet émerveillement et cette contemplation devant le mystère de la femme. Merci infiniment Emmanuel pour ton élan, ton témoignage, et on a envie de vous connaître. Voilà, donc j'invite les auditeurs de Radio Maria à aller peut-être sur des moteurs de recherche pour voir qui sont Emmanuel et Marie-Gabrielle Ménager, parce qu'en plus Emmanuel est modeste, mais il serve l'Église aussi au sein du dicastère, hein, pour les familles, les laïcs et la vie. Donc il rend de témoignages concrets et puis il témoigne et il forme aussi de nombreuses personnes à travers les forums Waouh, à travers leurs engagements familiaux. Et Emmanuel pourra même revenir témoigner dans cette série d'émissions sur ce service de notre mère, l'Église, en tant qu'homme, en tant qu'époux. Je crois que ce sera notre quatrième émission, notre « Comment servir l'Église dans notre mère concrètement ». Je rebondis sur une invitation du pape Jean-Paul II lors de la béatification des époux Beltrame Quattrocchi Il parlait en ces termes aux familles en disant: chère famille, aujourd'hui nous avons une confirmation singulière que le chemin de la sainteté accompli ensemble en tant que couple est possible, est beau, est extraordinairement fécond et fondamental pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Nous pouvons évidemment penser aux époux Martin, et je crois qu'il est important, quand on revoit ces deux familles, époux Martin et époux Beltrame Quattrocci, à quel point il y avait une unité conjugale et en même temps dans le respect de l'infinie liberté de déploiement du charisme de chacun. La vie conjugale tendue vers la sainteté n'est pas une fusion qui pourrait stériliser les élans de vie de chacun, mais vraiment une communion et une collaboration pour que les uns et les autres mutuellement se tirent vers le haut. Et le pape Jean-Paul II évoquait vraiment l'importance de puiser à la parole de Dieu pour pouvoir vivre de façon ordinaire, finalement, là, fleurir là où nous sommes plantés, vivre de façon extraordinaire, une vie ordinaire. Voilà. Comment est-ce qu'on convoque tous les jours, en puisant dans la parole de Dieu, et puis en reprenant des forces dans les sacrements, de quoi mener de façon extraordinaire? Et ça, c'est le Christ qui nous le montre. On n'est pas là pour se regarder, se contempler, mais dans la singularité de notre quotidien, dans le don de soi, on peut convoquer l'extraordinaire de la vie, dans cette harmonie familiale, dans l'attention à chacun, dans ce qu'il est, dans sa singularité, et dans notre vocation de parent. Et c'est ce qui fera de ce laboratoire de vie évangélique un lieu de rayonnement. Souvent, je pensais à la phrase d'André Gide qui disait « Famille, je vous hais ». Et finalement, je vais peut-être vous choquer, mais André Gide, il n'avait pas tort, parce que la vraie phrase d'André Gide, c'était la suivante, c'était « Famille, cercle clos, volet fermé, dégoulinant de bonheur, je vous hais ». Et André Gide, il fustigeait une famille idolâtre, une famille refermée sur elle-même, une famille sclérosée, une famille auto-célébrée. Et la famille chrétienne, comme l'expliquait Emmanuel, c'est quelque chose de profondément vivant qui se conduit au quotidien. C'est l'anti-bourgeois. C'est je prends des risques, je me désarçonne. Pourquoi? Pour contempler et pour servir l'autre et dans l'accueil de tous ces petits événements du quotidien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Seigneur est celui qui fait toutes choses nouvelles et tous les jours, nous pouvons faire de nos journées une petite aventure en posant des actes inédits, des actes de charité. Moi, de plus en plus, c'est un prêtre qui m'avait un peu secoué là-dessus. J'essaie de confesser des péchés par omission. Et on a bien souvent des actes de charité, de bonté, de générosité qui peuvent monter dans le cœur. Et puis par paresse, et l'omission, c'est souvent de la paresse, eh bien, on procrastine, on remet à plus tard, ou bien on enterre tout simplement. Et je crois qu'il faut, il faut toujours se dire qu'est-ce qui fait que je peux faire de chaque journée, pour mon conjoint, une journée d'émerveillement, une journée de conquête. Aujourd'hui, on galère tous, hein, c'est compliqué. Et je crois que dans cette aventure, il est important pour l'homme d'écouter son épouse. J'ai eu un petit déclic il y a quelques temps où un prêtre me rappelait: Arnaud, nous avons deux oreilles, nous n'avons qu'une bouche, il faut doublement écouter et ne pas parler. Et souvent, nous les hommes, dans notre recherche un peu de l'efficacité, et aussi parce que tout simplement on est pressé, on veut faire, eh bien on voudrait clore les dossiers, et alors que je suis convaincu que l'épouse, elle a les solutions, elle a juste besoin d'écoute. Et du coup, ben, en discutant récemment avec d'autres pèlerins de Saint-Joseph, on disait, ben, on écoute, on reformule, on relance. Et tout à l'heure, Emmanuel a évoqué hein, cette notion de relance, de lancer. Et c'est extrêmement vivant. Et je crois que c'est ça. Et puis dans l'écoute, la femme se sent aussi sécurisée. Saint-Joseph est le gardien de la Sainte Famille. Et le gardien, il sécurise. Martin Stephens, dans un livre récent, disait « L'homme doit être une enceinte pour celle qui est enceinte. Il doit être une enceinte, une forteresse pour protéger celle qui donne la vie. » Et je crois que c'est des vocabulaires un peu guerriers. Vous avez vu d'ailleurs cette musique un peu lyrique. Mais c'est toute notre vocation exaltante de l'homme. Et donc j'invite tous les pères de famille vraiment à un peu se ressaisir dans leur vie conjugale, de se dire waouh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Voilà. Est-ce que mon épouse et ma vie de couple m'échappent? Et comment est-ce que je peux un peu reprendre, avec l'aide du Seigneur, le contrôle de tout ça? Est-ce que je me mets dans cette attitude de don et de célébration de l'autre, même si bien souvent ben, on se fige dans notre orgueil, on voit les défauts, on voit les blessures, on voit les crispations? Et comment est-ce que je viens réellement la rejoindre? J'essaye d'identifier ses besoins, ses attentes, son rythme. Le rythme de la femme, Emmanuel l'a évoqué, n'est pas le rythme de l'homme. Et comprendre ce mystère de la femme, ce mystère insondable de la femme, et qui est comprenons-le aussi dans notre vie de mariage, qui est, j'ose la formule, un peu un portail vers la sainteté. Nous devons être des ascenseurs mutuels, des portails pour nous ouvrir le chemin de cette rencontre avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est quand nous sommes dans cette optique, c'est quelque chose d'assez exaltant. Emmanuel, je crois que tu es toujours en ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette sanctification mutuelle?
Oui, je voudrais juste rajouter une dimension qui me paraît importante. C'est dans cette sanctification, elle passe par le corps. Et le corps est une réalité qui, dans le monde dans lequel nous vivons, est très souvent salie, très souvent même mutilée. Et je crois que, en fait, dans la conjugalité, il y a cette attention que l'homme doit porter au corps de sa femme. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances liées à ce manque de délicatesse de l'homme. Qui se met au service, enfin qui va véritablement à la limite restreindre peut-être ses désirs, etc. Parce que il va d'abord écouter le désir de son épouse, il va d'abord écouter les attentes de son épouse, il va d'abord écouter les aspirations de son épouse, etc. Et ça, c'est quand je dis ça, c'est un travail quotidien que personnellement, en tant que pêcheur, je suis obligé de faire, refaire chaque jour. Et ça, je pense que dans le monde dans lequel on vit, où le corps est tellement, malmené, eh bien c'est important de penser que le Christ lui-même est passé par ce corps. Il a respecté son corps, il a respecté son sommeil. Et, le nombre de fois où le Christ part à un moment donné, certes il va prier, mais il va aussi dormir. Il a besoin de quitter la foule, il a besoin de se retrouver avec ses amis, il a besoin de partager avec les disciples. Et bien, on a besoin aussi d'avoir cette intimité avec son épouse, d'avoir le temps de l'accueillir, d'avoir le temps de la respecter. Voilà. Et ça, c'est un travail quotidien qu'on doit faire sur soi-même. Et le Christ nous aide, je dirais. En fait, la merveille dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que... cette réalité, nous la verrons dans l'éternité. Et petit à petit, il faut que nous dévoilons cette réalité. Et j'ai envie de dire, je vais terminer peut-être par un témoignage que je cite souvent, c'est un grand-père de 90 ans qui un jour se retrouve au cœur de son missel, il voit une photo de sa femme et il me tape un petit coup dans le coude, là j'étais à côté de lui, et puis il me dit « Regarde comme elle est belle !» Et il était dans la contemplation, 90 ans, il était encore dans la contemplation de son épouse. Et au cœur de la messe, il offrait cette relation avec son épouse. Pour moi, quand j'étais un gamin qui avait, je sais pas, à l'époque 15 ans, etc., cette image m'est restée. Et cette image m'habite encore tous les jours en me disant « Mais quel chemin encore il nous reste à parcourir pour pouvoir découvrir cette réalité insondable et extrêmement... de la richesse du corps, de l'âme de son épouse, dont nous avons la responsabilité, puisque nous sommes amenés à, je dirais, la faire évoluer vers la sainteté. J'attends de mon épouse la même chose, hein. D'ailleurs. Elle est responsable de ma sainteté. Je suis certes aussi, mais elle est co-responsable. Eh bien, je suis responsable de la sainteté de mon épouse. Quelle grâce! Et pour ça, je dirais, c'est un, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un souci d'émerveillement, enfin un souci de rester dans cette attitude d'émerveillement quotidien et quasiment de tout instant.
Voilà, merci, cher Emmanuel. Chers amis, l'émission arrive à son terme. Nous nous retrouverons dans un mois, toujours dans cet élan de la conquête, cet élan de la paternité. Nous, peut-être que après ce que nous avons entendu, comme je le disais tout à l'heure, essayons de revisiter notre relation avec notre épouse, la mettre dans cette perspective de la sainteté, de l'humilité, du service, de toute sa personne, dans son corps, son esprit, son âme. Et puis, sachant que nous sommes gardiens de son âme et de cet appel à la sainteté. Dans un mois, cette émission des Pères pour aimer et servir sera orientée vers le service, vers l'union au Christ. Donc, ce combat spirituel qui est inscrit au cœur de l'homme, nous pourrons évoquer évidemment le combat de la vie conjugale, mais au-delà, de se dire aujourd'hui, dans notre vie bruyante, bouillonnante, et dans toutes les petites tentations du quotidien, comment, de façon très concrète, je mène ce combat spirituel qui est le combat de l'intériorité. Voilà, chers auditeurs de Radio Maria, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, messieurs les hommes, soyez forts, soyez émerveillés, soyez des contemplatifs de vos épouses, soyez des acteurs de sa sécurité et de sa sainteté, et continuons à servir dans la joie et dans l'élan que le Seigneur est ressuscité et que le meilleur est toujours à venir. Merci à vous.